Alors, est-ce que vous savez quel est le thème de cette soirée louange? Oh, oui, alors Dieu libère, ouais. Mais alors, est-ce que vous le croyez? C'est pas tout de venir ici. Est-ce que vous le croyez vraiment de vos tripes? Est-ce que vous le vivez? Parce que moi, j'y ai cru, je me suis attachée à cette croyance pendant plus de 10 ans. Vraiment, j'y croyais de tout mon cœur, mais je le vivais pas. Alors, je m'appelle Anne, j'ai 28 ans, je suis de cette église. Je me suis convertie à l'âge de mes 16 ans. J'ai toujours eu à cœur de plaire au Seigneur, d'avoir une vie droite, d'être utile pour le Seigneur et d'être à l'écoute de sa volonté pour tous les choix de ma vie. Mais vous savez, avoir le désir profond de plaire au Seigneur, ben ça ne suffit pas. Je menais comme une double vie dans mes pensées et parfois en actes aussi. Alors d'un côté, j'étais la bonne petite chrétienne, entre guillemets, toujours de bonne humeur, toujours disponible pour les autres et investie à l'église. Et de l'autre côté, j'étais envahie par des luttes et des tentations. J'étais bien souvent rattrapée par mes faiblesses et mes incapacités. J'étais comme enfermée dans des mécanismes dont j'arrivais pas à m'en sortir. Il y a bien des jours où je me suis détestée. Et puis pour pas sombrer, je finissais par me dire « Bof, tout le monde doit être comme ça. Je pense qu'en fait tout le monde vit des trucs dans sa tête et puis le dit pas. C'est pas grave, le dimanche on vient, on sourit et on va bien. » Puis je me disais « Puis finalement c'est plus fort que moi, qu'est-ce que je peux y faire ?» Mais je suis là ce soir pour vous témoigner qu'il n'y a rien, vous entendez, rien, que le Seigneur ne puisse pas vous délivrer. Si le Saint-Esprit vous fait prendre de quelque chose dans votre vie, d'un péché, d'une faiblesse ou autre, je vous assure que si le Saint-Esprit vous fait prendre conscience de quelque chose, c'est qu'il vous demande d'entrer dans un processus de changement. Le Saint-Esprit ne vient pas nous condamner, il vient nous relever. Donc, cher ami, si vous avez quelque chose à cœur, je vous assure que Dieu est tout-puissant pour vous en délivrer. Et face à cette demande de Dieu, face à cette demande du Saint-Esprit, on a 3 solutions. La première, c'est de faire l'autruche. J'ai fait ça de mes 15 à 20 ans, à peu près. La deuxième, c'est d'essayer de vous en sortir par vos propres forces. J'ai fait ça ces dernières années. Puis la troisième solution, c'est de venir au pied de la croix, comme on est, comme un petit enfant. Venir courir et s'abandonner, mais tout simplement, sans force, en étant faible, vulnérable. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de toutes mes luttes ce soir. Je laisse chacun d'entre vous mettre les mots qui vous parlent. Problème d'alcool, de drogue, de boulimie, des idées noires, des pensées d'adultère, la pornographie, la masturbation compulsive, des désirs homosexuels, de la colère, de la rancœur, le mensonge, le manque d'authenticité, l'orgueil, la kleptomanie, de la relation avec l'argent qui n'est pas saine, etc. Je laisse chacun mettre les mots qu'il lui faut. Mais je voudrais insister sur 2 aspects ce soir, sur mon témoignage. Parce que je pense que je ne suis pas la seule ce soir dans cette salle concernée. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que j'étais emprise d'un esprit de mort et d'idées noires. Je pense qu'un esprit de mort planait sur ma vie depuis très longtemps, voire depuis ma naissance. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais en tout cas j'en ai pris conscience ces derniers temps. Ça se traduisait par une aspiration à vouloir mourir, mais sans aucune raison apparente. Je devais toujours avoir dans ma tête un scénario de mort, juste au cas où. Je savais que je n'allais pas le faire. J'étais vraiment sereine, je savais que je n'allais pas le faire. Mais juste au cas où, tout le temps dans ma vie et à tous les âges de ma vie, j'avais au cas où un scénario de mort. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passait sans que je pense à la mort. Pourtant, je n'étais pas dépressive, j'aimais la vie et j'ai une vie plutôt chouette. J'ai un travail que j'aime, j'ai une famille unie. J'ai de nombreux amis et je suis bien engagée dans cette église. Il y a 2 ans, j'ai perdu 40 kilos suite à une opération de l'estomac. Mon armure, ma protection physique et émotionnelle est partie. Et là, ça a été la dégringolade. Je suis devenue insomniaque du jour au lendemain. Alors avant, j'étais plutôt forte, j'arrivais à résister à mes idées noires, à me faire des raisons. J'arrivais en quelque sorte à les contrôler. Mais je vous assure que quand on dort plus, on perd complètement pied. Je me suis laissée totalement submerger. J'ai fait un accident de voiture assez grave, où je suis ressortie totalement indemne. Et Dieu m'a fait comprendre que c'était pas mon heure. C'est comme si Dieu me disait, oui, je peux te reprendre, mais non, je te veux pas, tu dois encore rester en vie sur terre, j'ai un plan pour toi. Quelques semaines après cet accident de voiture, J'étais dans un état de fatigue tel que mes réflexions n'étaient plus justes. J'étais persuadée qu'il était plus sage pour moi de rejoindre prématurément le Seigneur. C'est comme si c'était un pas d'obéissance de mourir jeune plutôt que de prendre le risque de me détourner de lui. Mais Dieu est bon. Il a de merveilleux plans pour moi. Dieu m'a empêchée de me jeter d'une falaise grâce à une tempête de neige qui a immobilisé ma voiture. Suite à cet épisode, je me suis retrouvée en psychiatrie. Je me suis retrouvée sous des traitements psychiatriques lourds. Le but, c'était de réussir à me faire dormir. Et ils ont dû augmenter les doses parce que mon corps refusait de lâcher prise et de dormir. Suite à ça, j'ai dû faire un choix. Soit je m'enfonçais encore plus avec ces traitements, soit je restais dans cet état-là, soit je choisissais la vie. Alors heureusement, j'ai choisi la vie, mais ça n'a pas été un parcours facile. Quand j'ai compris qu'un esprit de mort planait sur ma vie, j'ai dû accepter d'y renoncer. Ça paraît facile à dire comme ça, mais je vous assure que ça n'a pas été facile. Parce que la mort, pour moi, c'était une porte de sortie, au cas où la vie devienne trop compliquée à supporter. Alors c'est paradoxal parce que d'un côté, les idées de mort me pourrissaient la vie, et en même temps, je m'y accrochais. J'ai été accompagnée d'amis chrétiens bien ancrés dans la foi. Nous avons chassé au nom de Jésus ces esprits de mort qui me volaient mon identité, ma liberté et mon bonheur depuis bien trop longtemps. Alors depuis cette jour et la nuit, ça c'est en avril, j'ai été libérée de mes insomnies et je n'ai plus du tout d'idées noires. Mais plus du tout d'idées noires. Je redécouvre ce qu'est la vie, mais j'ai aussi compris que je dois revalider aussi souvent que nécessaire le choix de vie de Dieu pour moi et proclamer la vie en abondance. Voilà. Ce que je voudrais vraiment vous insister, c'est que c'est pas normal d'avoir des idées noires. Combien de fois je me suis dit, oh, on doit tous plus ou moins en avoir. Ben, je vous assure que depuis avril, mon esprit est clair et il n'y a pas un jour où j'ai eu des idées noires depuis le mois d'avril. Donc non, c'est pas normal d'avoir des idées noires. On peut vivre sans idées noires. Je vous ai ramené un livre, si certains sont concernés et sont intéressés de le livre. Ça s'appelle « Enfin je vis, libéré de l'esprit de mort ». C'est un petit livre qui se lit vraiment facilement et qui vous invite à identifier l'esprit de mort sur votre vie, si c'est votre cas, et puis surtout à y renoncer. Il y a des prières qui vous aident et qui vous accompagnent. Je pourrais le mettre à la fin juste pour le consulter si ça vous intéresse. Et le deuxième aspect de mon témoignage, je voudrais vraiment insister ce soir sur le fait que je me suis perdue dans un activisme, et notamment à l'église, ici, jusqu'à en perdre mon identité et ne plus savoir qui je suis. Alors mon enfance, elle n'a pas toujours été rose, et la petite fille que j'étais à l'époque, elle a dû apprendre à grandir avec des blessures, des peurs, des faiblesses, des carences. Alors ça a eu pour conséquence une obésité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis fait opérer pour perdre ce poids. Je me suis aussi protégée en anesthésiant mes émotions. Pour ne plus souffrir, pour plus ressentir la souffrance, c'est plus facile de ne rien ressentir. Même les choses positives, j'étais comme de marbre tout le temps. Donc j'anticipais le rejet et la dépendance dans mes relations en restant toujours distante émotionnellement. Je ne m'investissais jamais de cœur à cœur avec les gens, comme ça je risquais rien, je ne ressentais jamais le rejet. Donc vous savez, j'étais ce genre de personne, toujours dispo, on pouvait m'appeler, j'étais toujours là, oui, je peux venir t'aider. Je passais des heures à écouter mes amis, mais intérieurement, j'étais jamais atteignable, jamais disponible intérieurement. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous ce soir. Je cherchais à exister, à avoir de la valeur, à travers un activisme et la reconnaissance des autres. Je me nourrissais de leur valorisation, mais ça devenait un cercle vicieux. J'avais l'impression que je ne pouvais pas être moi-même, car je n'étais pas intéressante. Donc je devais jouer un rôle, être la fille toujours dispo, toujours de bonne humeur, toujours à l'écoute. Mais à force de jouer un rôle, on se perd et on ne sait plus nous-mêmes qui on est. J'ai fini par étouffer sous le masque de la bonne petite chrétienne. J'ai été accompagnée sur le plan spirituel et psychologique pendant un an. Ce travail m'a permis de mettre en lumière mes fausses croyances et d'énoncer une fausse identité que je m'étais forgée depuis la toute petite enfance. Finalement, j'y croyais moi-même, c'était des choses que je croyais sur moi. Des choses du type « je ne suis pas choisissable, ma compagnie n'est pas intéressante, je ne suis pas digne de respect ou je ne suis pas désirable ». Et pendant des années, je me suis bataillée seule avec des luttes. Des idées noires, des dépendances sexuelles, des fausses croyances, la peur du rejet, la peur de la dépendance, etc. J'ai pensé longtemps, maladroitement, que le temps que je gardais ça pour moi, ça restait que des pensées, et que du coup, je ne donnais pas le pouvoir à ces pensées de me définir. Mais le problème, c'est que l'ennemi, lui, il continuait d'avoir le pouvoir sur moi et il s'est bien acharné. Un des plus puissants mensonges de Satan a été de me persuader que je serai marquée à jamais par mes dérèglements personnels, que ce sera comme ça toute ma vie, que je devais apprendre à vivre avec. Mais un jour, j'ai compris ce que signifiait le verset bien connu « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », etc. Ce verset a vraiment pris sens pour moi. Quand je marche, on marche, on n'est pas stagnant, on n'est pas dans la vallée de l'ombre de la mort, puis c'est comme ça, puis c'est pour la vie. Quand je marche, c'est un processus de mouvement. Donc le but, c'est de traverser cette vallée, pas d'y séjourner, le but, c'est d'en sortir. Je reste persuadée que mon papa céleste ne m'a pas convaincue de pécher sans me donner la capacité de m'en repentir et d'entrer dans une démarche de guérison. Il n'y a rien qui est comme ça, il n'y a aucune fatalité avec Dieu, et heureusement. J'aime bien cette phrase, je vous la partage. « Satan m'appellera toujours par mon péché, mais Dieu m'appellera toujours par mon nom. Si Satan me rappelle mon passé, à moi de lui rappeler son avenir. » Alors j'ai dû accepter et apprendre à enlever les masques face à ma famille, aux amis proches et aux responsables de l'Église. Alors aïe aïe aïe, parce que je vous assure que c'est pas facile quand on vit pendant 25 ans avec un masque de l'enlever. Alors j'ai dû accepter de me montrer vulnérable, authentique, avec mes limites, mes incapacités, mes luttes, mes péchés. J'ai dû aussi accepter à accueillir moi-même mes émotions et à les montrer aux autres. Alors depuis, je suis en marche, je suis loin d'avoir tout compris. J'apprends à être dans le être et à arrêter d'être dans le faire. L'histoire de Marthe et Marie me parle beaucoup dans la Bible. Une des grandes étapes pour moi a été reconnaître mon péché d'orgueil, d'essayer de m'en sortir seule. Je remettais toujours à demain ce que le Seigneur me demandait de faire là, maintenant, tout de suite. Il y a beaucoup de chants où on chante au futur. Ben, j'essaye maintenant de les chanter au présent et ça me change mon état d'esprit. En fait, j'en voulais au Seigneur de ne pas régler les problèmes de ma vie, alors que je n'étais pas prête totalement à le laisser agir. J'ai dû renoncer au bénéfice secondaire de mon péché. Et un jour, j'ai pris une grande claque dans la figure quand j'ai compris que j'avais peur de Dieu. Alors moi, peur de Dieu, c'était moi qui pensais que j'avais confiance en Dieu, qu'il était bon, qu'il était amour et que je lui remettais toute ma vie. J'ai réalisé en fait que j'avais peur des plans de Dieu pour moi. Alors je savais de manière théorique que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais alors je ne le vivais pas. Comment je pouvais m'abandonner entièrement dans ses bras si je n'avais pas totalement confiance en lui? Voire pire, j'avais peur de ses plans pour ma vie. Alors j'ai dû le réaliser, le confesser, et puis ça a été un nouveau départ pour moi. Alors concrètement, moi les témoignages, avant j'en ai entendu, puis alors ça m'agaçait, je me disais, mais concrètement, demain matin je me lève et je fais quoi? Alors concrètement, je n'ai pas de recette miracle, je suis désolée, mais pour moi, comment ça a été concrètement de revenir au pied de la croix? Comment j'ai réussi à m'abandonner complètement à Dieu? J'ai appris à être totalement dépendante de Dieu. J'ai dû répéter X fois jusqu'à que ça sorte du plus profond de mes tripes, et non de mon intelligence, cette prière. « Seigneur, je suis complètement à toi. Fais ce que tu veux de moi. Emmène-moi là où tu veux. Brise-moi. Je suis prête à tout perdre. À perdre mon travail, à perdre ma famille, à perdre mon argent, ma stabilité, mes amis, mon honneur, mon bonheur. Je te fais entièrement confiance. » Alors cette prière, je l'ai faite au début de mon intelligence, et puis à force de la répéter, j'ai réussi à la faire de mes tripes. Et quand j'ai réussi à la faire de mes tripes, ma vie, elle a changé. J'ai eu comme un autre regard sur la vie. Pour sortir de mon hyperactivité, je me suis mise en pause dans mes services et dans les réunions à l'église. Puis j'ai aussi limité mes loisirs sportifs. Ça m'a libérée du temps, ça m'a permis d'affronter ma solitude, ce qui me faisait vraiment peur. J'ai pu apprendre à passer du temps de qualité avec Dieu, à goûter la présence de Dieu. J'ai aussi expérimenté l'écoute de Dieu. C'est une notion que je ne connaissais pas. Moi, les gens qui me disaient « Dieu m'a dit que », je disais « Waouh, comment tu fais? Moi, je ne l'entends pas. » Mais en fait, je ne prenais pas le temps de l'écouter. Alors concrètement, c'est juste moi, hein, ce n'est pas une recette miracle, mais moi, c'est passé par là. Concrètement, quand je sentais que ça allait plus, je m'asseyais par terre chez moi, par terre, là où j'étais, bam. C'était symbolique, c'était juste une façon de dire à Dieu, ben regarde, je m'abandonne à toi. Et là, j'essayais d'accueillir mes émotions comme elles venaient. Alors des fois, je pleurais, des fois, je criais, des fois, j'engueulais Dieu. Des fois, je disais rien. Des fois, j'avais envie de louer, ça m'est arrivé d'avoir des fous rires. Mais juste, j'étais là, dans la présence de Dieu, à dire, ben, je m'abandonne à toi, là, par terre, comme ça. Alors, être totalement dépendant de Dieu, tout lui donner, tout ce qui nous semble constituer notre force et notre bonheur, tout lui donner et être prêt à en être dépouillé. Humainement, ça paraît fou. Ça m'a paru fou pendant des années. Je disais, oui, je te donne tout, Seigneur, mais au fond, je ne le ressentais pas. Mais Dieu est parfait. Son amour est parfait. Ses bénédictions sont parfaites et ses plans sont parfaits. Ses stratégies sont parfaites. Il nous connaît parfaitement. Dieu nous aime, c'est un papa au cœur de mère, un gentleman. Il va à notre rythme. Je vous assure que c'est bon de lâcher prise et de se blottir dans les bras de Dieu. Alors j'ai été accompagnée pendant un an sur le plan spirituel et psychologique. J'ai accepté que le Saint-Esprit aille dans mes profondeurs. Guérir les blessures que j'avais pas envie de remuer. Ça a fait mal, vraiment ça a fait mal. À l'issue de cette année de travail, j'ai fait un jeûne et prière de 3 jours. D'eau et de nourriture. Première fois de ma vie que j'expérimentais un jeûne aussi long et d'eau et de nourriture. J'ai expérimenté et compris ce que c'est que la dépendance à Dieu de minute en minute. C'est pas d'heure en heure, limite de seconde en seconde. Pour tenir comme ça, on a envie de regarder sa montre toutes les 10 secondes, on tient de minute en minute. Alors ces 3 jours de jeûne et prière, d'eau et de nourriture, se sont soldés par un temps de prière de délivrance, accompagné par des chrétiens solides dans la foi. Je pense que les esprits se nourrissent de nos blessures. Donc je voudrais vraiment véhiculer ce message. Prendre le temps de guérir mes blessures était primordial pour moi avant ce temps de délivrance. Je ne vous encourage pas à courir à tout prix après une délivrance. Je pense vraiment que le principal, c'est d'inviter le Saint-Esprit à venir prendre soin de nous et à son rythme, à notre rythme. En fait, le Saint-Esprit se met à notre rythme. Je veux témoigner ce soir que je suis libre. J'ai retrouvé ma vraie identité, celle de fille du roi des rois. Je vous encourage à trouver un partenaire de prière, à confesser, soyez authentique, instaurez un principe de redevabilité, avec zéro compromis, zéro mensonge, on se dit tout, on se dévoile, on est à nu. Enlevez vos masques, arrêtez de vous épuiser en vain, on s'épuise et puis on perd des années. Proclamez votre identité en Christ, c'est tellement bon de retrouver son identité d'enfant du roi des rois. Alors je vous encourage aussi à faire, si vous en ressentez le besoin, un travail de fond, à inviter le Saint-Esprit dans les profondeurs de votre être, à revenir au pied de la croix tous les jours, tout simplement, en fait il n'y a rien de compliqué, c'est comme un petit enfant qui vient courir et se blottir dans les bras de son père. Le Seigneur, il veut venir retirer nos pansements qu'on s'est mis nous-mêmes sur nos plaies. Mais il ne veut pas juste mettre un petit coup de désinfectant, non, le Seigneur, il veut venir guérir ses blessures. Mais pour ça, il faut le laisser aller en profondeur, il faut être prêt, en fait, à se rendre totalement vulnérable. Les thérapies du monde, alors je ne déconseille pas, hein, je suis allée voir moi-même un psychologue à un moment donné, mais la thérapie du monde, leur slogan, en gros, c'est « on va vous aider à aller suffisamment bien pour vivre avec ». Dieu, il ne nous dit pas ça. Dieu, il nous dit « il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ben, je vais aller en profondeur guérir ta blessure. Elle ne s'infectera plus parce qu'elle ne sera plus là ». C'est pas juste un pansement comme ça. Alors la guérison, elle se fait pas en un claquement de doigts. Elle se fait progressivement, au fur et à mesure où on collabore avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à mettre en lumière les zones d'ombre de notre vie pour qu'on puisse la remplacer par la lumière de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de mon témoignage ? Moi, j'aimerais que vous reteniez que Dieu est bon. On a un Dieu qui est patient. Je vous assure, il a été mais patient avec moi. J'ai 28 ans. Et à belle lurette, j'aurais dû travailler ça. C'est un Dieu d'amour. Il nous accompagne et il va à notre rythme, au fur et à mesure où on collabore avec lui. C'est nous qui donnons le tempo et puis le Seigneur, il nous suit. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Dieu m'a libérée d'un esprit de mort, d'idées noires, de lutte sexuelle. Il m'a aussi libérée de ma fausse identité, de fausses croyances, mais alors qu'elle était bien ancrée, j'y croyais dur comme fer. Dieu, il m'a libérée de la peur du rejet, de la peur de l'engagement, de la peur de la dépendance. Alors mes amis, je suis encore en chemin et je le serai pour toute ma vie. Je suis désolée, on n'arrive jamais à... Ça y est, j'ai fini de travailler. Mais Dieu m'a redonné ma vraie identité. Donc avec plaisir, je vais sur le chemin de la vie avec tous les défis qui m'attendent. Pour en arriver là, alors j'ai dû accepter d'être brisée, demander de l'aide, enlever les masques. Ça m'a bouleversée, déstabilisée, c'était dur, très dur parfois. J'en ai versé des larmes et je me suis mis en colère plus d'une fois. Mais alors qu'est-ce que je regrette pas, ces mois passés de galère. Et j'en ai versé des larmes quand j'imaginais ma vie de célibat en solo, avec mes peurs de l'engagement, du rejet, etc. Je me disais, mais jamais je vais me marier. Mais j'ai une très belle nouvelle à vous annoncer pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas. Je me suis fiancée et je me marie en septembre prochain. Alors Serge, mon futur mari, c'est un cadeau inespéré et inestimable. Dieu est bon, les amis, vraiment. Mais alors, en son temps, il faut juste patienter. Enfin, Dieu est bon en tout temps, mais en son temps, il répond à nos prières. Et plus je suis vraie, authentique et vulnérable avec mon fiancé, et plus je me sens en sécurité, et plus je l'aime. Je découvre de jour en jour le cadeau qu'est la vie à deux. On se réjouit des bénédictions et des filles qui nous attendent avec Serge. Je voudrais terminer ce témoignage par la prière, si vous êtes d'accord. Je vous demanderai de fermer les yeux, par respect pour ceux qui ont besoin de passer un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et je vais prier. Seigneur Père, je veux profiter de cette occasion pour encore une fois te dire merci et te rendre toute la gloire, à toi seul, Jésus. Je te prie pour toutes les personnes qui ont été touchées par ce que tu as fait dans ma vie. Je te prie, Seigneur, que ces personnes ne repartent pas comme elles sont arrivées ici ce soir. Je te prie pour un réel engagement dans leur vie, Seigneur. Qu'elles puissent décider ce soir de tout, mais tout te remettre. C'est tellement bon de s'abandonner dans tes bras, Père. Je te prie, Seigneur, d'enlever les masques. Donne le courage d'enlever les masques. D'arrêter de se cacher derrière un activisme qui nous perd. Et Seigneur, s'il y a des personnes ici qui ont comme moi anesthésié leurs émotions, je te prie de les aider à réaligner leur cœur avec leur tête et leur âme. Seigneur, qu'ils ne puissent faire qu'un comme toi tu nous as créés. Et je te prie qu'ici, chaque personne ici présente trouve un vis-à-vis, Seigneur. Une personne de confiance avec qui puisse instaurer des prières régulières, un principe de redevabilité, Seigneur. S'engager à être dans le zéro compromis. Pour avancer, se sanctifier. Et Seigneur, je te prie pour les personnes ici qui peut-être pensent avoir un esprit de mort. Seigneur, je te prie que maintenant, ton Saint-Esprit vienne apporter la lumière et chasser l'obscurité. Et Seigneur, je veux te remettre les personnes célibataires ici ce soir. Je te prie vraiment, Seigneur, de les aider à patienter. Seigneur, à vraiment croire au plus profond d'eux que tu es bon en ton temps. Et que tu pourvois, Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue ce soir et dans ma vie et dans ce témoignage, Seigneur. C'est juste grâce à toi. Moi, j'ai juste dû m'abandonner à toi. C'est toi qui as tout fait, Seigneur. Sois glorifié. Amen.